Il y a la possibilité de suivre le texte sur la feuille des champs pour ceux qui l'ont. Alors, en 1933, André Malraux, qui se trouve ici à gauche, a reçu le prix Goncourt pour son livre « La condition humaine », qui se trouve représenté à droite. Alors, l'action se déroule en Chine, et dans ce livre, les héros luttent à la fois pour leur liberté, pour leur dignité. En fait, ils luttent pour améliorer leurs conditions humaines. Mais c'est un échec. Au final, certains se suicident et d'autres meurent exécutés. Et à la dernière page du livre, Malraux conclut sur la condition humaine ainsi. Il ne faut pas 9 mois, il faut 60 ans pour faire un homme. 60 ans de sacrifice, de volonté, de tant de choses. Et quand cet homme est fait, quand il n'y a plus en lui rien de l'enfance ni de l'adolescence, quand vraiment il est un homme, il n'est plus bon qu'à mourir. Constat d'échec. Alors voilà qui n'est pas très gai. Pourtant, lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, peut-on se réjouir ? L'homme a lutté, il continue à lutter pour rendre le monde meilleur. Mais pour quel résultat ? Crise économique, dégradation de la planète. On pourrait parler aussi de tous les conflits sociaux, ethniques, politiques. En fait, n'importe quel journal télévisé pourrait nous convaincre de l'échec. L'homme semble incapable de créer une société juste, une société paisible, une société libre. Alors le passage de ce matin nous éclaire sur la cause de cet échec. Ce texte d'Éphésiens expose le véritable problème de l'humanité et il le fait sans ménagement. Mais en même temps, ce passage n'a rien de désespérant. Car il ne se contente pas d'exposer le problème de l'homme, il révèle aussi la lumineuse solution que Dieu a apportée à ce problème. Alors notre passage s'articule en trois temps. D'abord versets 1 à 3, ce que nous étions, à savoir en fait la condition humaine sans Dieu. Puis versets 4 à 6, ce que Dieu a fait, l'action salvatrice de Dieu. Et enfin, versets 7 à 10, pourquoi Dieu l'a fait. Pour montrer l'infinie richesse de sa grâce. Alors, versets 1 à 3, d'abord ce que nous étions. L'apôtre Paul commence par dresser un portrait sans concession, le portrait de l'homme sans Dieu. C'est-à-dire qu'il rappelle aux Éphésiens, à lui-même et à nous-mêmes, ce que nous étions avant notre conversion. Alors, relisons les versets 1 à 3. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Alors détaillons d'abord ce portrait, avant d'essayer d'en tirer des applications. Alors souvenons-nous de ce que nous étions. Avant notre conversion, Notre état, n'était pas reluisant, il était même dramatique. Nous étions morts, esclaves et condamnés. Morts tout d'abord. Verset 1, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Or notre corps était vivant, remuant, tout du moins pour quelques années encore. Mais nous étions séparés de la seule source de la vie, Dieu. Nous étions des cadavres spirituels. Et cela n'avait rien d'accidentel, ce n'était pas un coup du sort. Notre mort spirituelle était la conséquence logique de nos fautes. C'est parce que nous avions offensé Dieu que nous étions morts. Esclaves ensuite, ce sont les versets 2 et 3. Nous étions esclaves à la fois du monde, c'est-à-dire captifs d'une société organisée sans Dieu, mais aussi esclaves du diable. Nous adhérions plus ou moins consciemment aux valeurs du diable, et en même temps esclaves de notre propre nature humaine. Nos pensées, nos actes étaient ceux d'être livrés à eux-mêmes. Enfin, nous étions condamnés. Le verset 3 achève ce terrible diagnostic sur nos vies. Nous étions par notre condition même destinés à la colère. Alors, il s'agit ici de la juste colère de Dieu. Ce n'est pas une de nos colères incontrôlées qui révèle notre mauvais caractère. La colère de Dieu est juste. Sa colère, c'est en fait une hostilité personnelle, constante, à l'égard du mal. Voilà donc la condition humaine sans Dieu. Un homme mort, esclave, condamné. Alors, quelles applications tirer de ce portrait ? Pourquoi Paul dresse-t-il ce portrait ? Manifestement, il avait envie de casser le moral des Éphésiens. Ça doit être ça. Eh bien non. Paradoxalement, Paul dresse ce portrait d'abord pour susciter notre émerveillement. Si l'on veut comprendre l'étendue de l'amour de Dieu, toute la beauté de la grâce qu'il nous a faite, il faut se souvenir de ce que nous étions. Des hommes et des femmes, morts, esclaves et condamnés. Alors attention, Paul ne veut pas culpabiliser les Éphésiens. Ils ont été pardonnés, sauvés, et donc ce portrait appartient au passé. Mais il veut leur rappeler la grandeur de l'amour de Dieu, justement pour susciter une louange joyeuse. Ensuite, ce portrait nous oblige à ne pas minimiser la gravité de notre péché. Je pense que nous avons tous une tendance naturelle à penser que nous n'étions pas si mauvais que ça. Souvent parce qu'on se compare aux autres. Alors oui, bon, j'étais pécheur, mais bon, je ne suis pas comme Hitler. Ou j'étais pécheur, mais bon, je ne suis pas comme celle-là qui passe son temps à se saouler, ou je ne me suis jamais livré à la débauche comme celui-ci. Et en fait, on finit par penser que nous méritons davantage notre salut que d'autres. Que Dieu a fourni moins de travail pour nous sauver que pour notre voisin. Alors c'est notamment le risque lorsqu'on a grandi dans une famille chrétienne, car on a souvent suivi un mode de vie chrétien. Pourtant, même si nous pensions être propres sur nous, nous ne l'étions pas face à Dieu. Nous étions tous morts, esclaves et condamnés. Ce portrait nous montre aussi la gravité de l'état de nos amis non chrétiens. Alors, même si ce texte ne prétend pas donner une vision exhaustive de la condition humaine. Même si dans sa grâce, Dieu permet à chaque être humain de faire du bien. Et même si nombre de non-chrétiens en font parfois davantage que beaucoup de croyants, pour autant, tout homme est par nature mort, esclave et condamné. Le texte insiste sur l'universalité de cette situation. Paul passe du « vous » des versets 1 et 2 à « nous tous aussi » au verset 3. Juifs et païens, hommes et femmes, riches et pauvres, africains, asiatiques, européens, etc. En dehors de Christ, l'homme est spirituellement mort. Il est asservi au mal et condamné. Pourtant, je peux vous assurer que mes amis non chrétiens ont l'air bien vivants. Certains exhibent un corps musclé, plein de vie. D'autres démontrent une intelligence rare. D'autres encore ont une personnalité admirable. Mais ce que nous dit Paul, c'est que ce qui compte réellement, c'est notre relation avec Dieu. Or, l'homme sans Dieu est spirituellement mort. Son esprit est coupé d'une relation vivante avec Dieu. Nous devrions nous soucier de nos amis, de nos collègues, de nos voisins, vouloir les aider. Alors comment ? En leur parlant de la vraie vie en Christ, en leur parlant de la grâce de Dieu, en annonçant la bonne nouvelle de la solution que Dieu apporte au péché de l'homme. Car la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas laissé l'homme dans cet état tragique, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Versets 4 à 6, ce que Dieu a fait. Alors, au regard des trois premiers versets, la sentence semble sans appel. L'homme est mort, esclave, condamné, son sort est entendu, la messe est dite. Le verset 4 n'avait donc plus qu'à conclure que nous allions tous subir la juste colère de Dieu. Mais Dieu est riche en compassion. Ce verset 4 crée une surprise totale. On quitte brusquement l'être humain pour se focaliser sur Dieu. Et contre toute attente, ce n'est pas la colère que nous lisons sur son visage, mais la compassion et un grand amour. Et cet amour est agissant. Puisqu'il a amené Dieu à nous sauver, alors là encore, voyons cela avant d'en chercher des applications pour nous. Alors tout d'abord, l'action salvatrice de Dieu, versets 5 et 6, relisons-les. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Dieu aurait pu nous laisser périr en enfer. On n'aurait rien pu lui reprocher. Mais à cause de son grand amour, il a décidé de nous rendre à la vie et de nous ressusciter. Nous l'avons vu, nous étions morts, et bien Dieu nous a rendus à la vie. Il a permis que nous entrions en communion vivante avec lui. Plus encore, il nous a ressuscités. Notre ancienne vie sans Dieu est morte, terminée. Désormais, nous vivons une vie nouvelle, une vie pour Dieu, en attendant notre résurrection corporelle. Mais l'action divine, en notre faveur, ne s'arrête pas là. Paul termine le verset 6 en déclarant quelque chose d'un petit peu mystérieux, que Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas qui parmi nous ce matin se sent assis actuellement dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors pour bien comprendre ce verset, il faut se souvenir du contexte immédiat. Paul vient de terminer le chapitre 1 en priant. Et dans cette prière, il parle de la puissance de Dieu. Il veut que Dieu convainque les Éphésiens de l'infinie grandeur de sa puissance. Et il a notamment déclaré au verset 20 du chapitre 1, « Cette puissance, Dieu l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Dieu a démontré sa puissance en ressuscitant Christ et en le faisant asseoir dans les lieux célestes. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre dans le texte de ce matin ? Eh bien, Paul applique cette même réalité à nous-mêmes. Exactement la même expression qu'au chapitre 1. Pourquoi ? Eh bien, parce que Paul veut nous convaincre de la toute-puissance de notre Dieu. Cette extraordinaire puissance qu'il a déployée en Christ, il l'a aussi déployée pour nous. Alors, quelles applications ? Le grand amour de Dieu et sa puissance. Alors d'abord, sommes-nous capables de nous émerveiller de l'amour de Dieu ? Déjà, avons-nous cru et reconnu cet amour ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui ? Et pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens depuis longtemps, sommes-nous encore capables de nous émerveiller de l'amour de Dieu ? malgré les années, malgré l'habitude. Alors, je vais souvent en vacances dans les Cévennes, et là-bas, j'ai des amis agriculteurs. Et parfois, je les accompagne dans la montagne pour aller réparer des clôtures. Alors, c'est pas parce que j'aime réparer des clôtures, mais c'est parce que j'ai l'occasion, en fait, de voir de très beaux paysages. Alors, pour ceux qui connaissent pas les Cévennes, voilà. Et alors, moi, quand je vois ces paysages-là, venant de la ville bétonnée de Colombes, je m'extasie. Je fais « Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau !» Et je les prends à témoin, mes amis. Mais eux, généralement, ils me disent « Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est juste des montagnes et des forêts. » Ils se sont habitués à cette beauté. Ou alors, ils sont absorbés par le boulot. Moi, je m'extasie, puis eux, ils me disent « Ben oui, d'accord, mais passe-moi la tenaille et le marteau, et voilà, on continue. » En fait, ils ne s'émerveillent plus. Eh bien, on court ce risque. Être trop habitué pour nous émerveiller encore de la grâce. Ou alors, être trop accaparé par l'activisme pour prendre le temps de nous en émerveiller. Mais parfois, notre émerveillement nous est enlevé pour d'autres causes. Quand on passe par l'épreuve, la déception, la souffrance. Sommes-nous encore capables de nous émerveiller de l'amour de Dieu malgré les circonstances difficiles ? Eh bien, si cela n'est pas le cas, revenons à la croix et redécouvrons l'amour de Dieu pour nous. Ensuite, dernière application, sommes-nous capables de reconnaître la puissance de Dieu ? Les drames qui nous entourent nous amènent à douter de la puissance de Dieu. On se dit que si Dieu existe, il doit être bien faible pour laisser faire telle injustice, telle guerre, telle famine. Ces versets sont là pour nous rappeler que Dieu a agi et qu'il l'a fait avec puissance. Il a ramené nos cœurs spirituellement morts à la vie. Il a transformé des esclaves en rois en les faisant s'asseoir à ses côtés. Alors on l'a vu, André Malraux termine son manuscrit sur un constat d'échec. Dieu, lui, n'a pas abdiqué devant le drame de la condition humaine. Et il a déployé sa puissance avec force en notre faveur. Mais au sein même aussi de l'Église, parfois on entend dire « Oula, la vie chrétienne, c'est trop dur. » Persévérer dans le témoignage, supporter le célibat, se mettre en quatre pour les autres. « J'ai essayé, mais j'y arrive pas, c'est trop dur. » Souvenons-nous que notre Dieu est puissant. Puissant pour nous sauver, puissant pour sauver nos voisins, nos collègues, puissant aussi pour nous changer et puissant pour nous aider à vivre une vie qui lui fasse plaisir. Alors terminons avec notre dernière partie. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés ? Voyons d'abord pour quelles raisons Dieu nous a sauvés et ensuite nous verrons dans quel but il nous a sauvés. Alors tout d'abord, pour quelles raisons Dieu nous a sauvés ? Relisons les versets 7 à 9. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Alors pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés ? Pour montrer l'infinie richesse de sa grâce. Ce passage est aussi clair que magnifique. Si nous sommes sauvés, c'est par grâce. Le salut ne repose pas sur ce que nous faisons ou des mérites. Aller à l'église, se faire baptiser, donner de l'argent aux pauvres, être sympa avec les autres, être un bon père de famille, tout cela c'est bien, mais ça ne contribue en rien à notre salut. Le chrétien n'a rien fait. Il a simplement répondu par la foi, par la confiance en ce que Dieu a fait. Alors, la grâce que Dieu nous accorde doit nous porter à l'humilité. Le salut n'est pas un dû, mais un don généreux. Ensuite, elle doit nous porter à la reconnaissance. Si si l'on a bien suivi le début de notre texte, si l'on a bien en tête le souvenir de ce que nous étions, on comprend à quel point nous ne méritions pas cette grâce. Enfin, elle doit nous porter à la joie. Notre société est basée sur la performance. Notre valeur dépend de nos actes, de nos réussites. On doit se construire soi-même pour devenir quelqu'un. Eh bien, l'Évangile dit le contraire. Ce ne sont pas nos performances qui nous sauvent. Je ne construis pas mon salut à la force de ma volonté. Le salut se reçoit gratuitement, sans être mérité. Quel soulagement, quelle libération. Pour finir, voyons dans quel but Dieu nous a sauvés. Verset 10. Relisons ce verset. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, nous l'avons vu, le salut est un retour à la vie, une libération de l'esclavage, le sauvetage d'une juste colère. Eh bien, Paul ajoute ici que le salut est une création, ou plutôt une recréation. La première création a été gâchée par le mal. Avec Christ, Dieu procède à une nouvelle création. Et chacun et chacune fait partie de cette nouvelle création. Chacun et chacune est une nouvelle créature. Et Dieu nous a recréés dans un but précis, afin de faire les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. C'est-à-dire qu'il nous a recréés pour que nous menions des vies qui lui plaisent. C'est toute l'obéissance qui est l'obéissance chrétienne qui est visée ici, et on la verra dans le détail à partir du chapitre 4. Heureusement, le chrétien n'est pas seul dans cette nouvelle marche. Dieu a préparé lui-même ses œuvres bonnes. Quand j'aide un ami, quand j'aime mes enfants, je ne fais que pratiquer les œuvres préparées d'avance par Dieu. Nous avons vu à l'instant ce que Dieu a fait pour nous. Eh bien, le risque serait de croire que l'intervention de Dieu se limite au passé. Voilà, le Seigneur a bien bossé, mais maintenant, c'est à moi de faire. Non, nous sommes sa nouvelle création. Nous sommes son ouvrage. C'est lui qui rend capable de marcher selon sa volonté. C'est lui qui met en nous le désir, la volonté d'accomplir les œuvres bonnes. Alors cela ne doit pas nous démobiliser. On veut s'investir totalement dans cette nouvelle création qu'est notre vie en Christ. Donner notre temps, nos talents, parce qu'on veut laisser Dieu nous changer, parce qu'on veut lui faire plaisir. Les œuvres que nous pratiquons naturellement découlent de notre salut. Je ne pratique pas le bien pour marquer des points, mais je pratique le bien parce que la grâce dont je bénéficie me bouleverse et m'émerveille. Alors, il est temps de conclure. Ce texte réaffirme avec force deux choses. La grâce de Dieu et la puissance de Dieu. Tant que nous vivions sans Dieu, nous étions spirituellement morts. Mais Dieu a eu pitié de nous. Par son amour et par sa puissance, il nous a sauvés. Et il continue d'agir dans nos vies pour nous changer. Alors le chrétien ne prétend pas être parfait. Il reconnaît simplement son état de pécheur. Il reçoit la grâce que Dieu lui offre gratuitement. Et il décide de cheminer avec Dieu pour maître et pour aide. Je terminerai par la prière. Seigneur, nous n'étions pas aimables,